explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est un grand et beau voyage en famille qui a de quoi laisser rêveur. Une véritable quête dans laquelle se sont lancés Marie-Hélène et Yannick Billard avec leurs trois enfants. Amandine, 7 ans, Colline, 10 ans et Simon, 12 ans. À l'été 2019, toute la petite famille est partie de Chambéry à vélo avec en ligne de mire le Sénégal. Nos 5 courageux cyclistes ont traversé les cols pyrénéens, les montagnes de l'Atlas et le désert de Mauritanie. 7000 km parcourus, 6 mois de pédalage intense et d'innombrables rencontres. Au-delà de la prouesse physique, ce long périple avait pour fil conducteur le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Toute la famille s'était mise en tête de retrouver cet enfant aux cheveux d'or croisé dans le désert à 1000 milles de toute terre habitée par l'aviateur en panne. L'idée était belle et poétique. Mais sur le terrain, comment ça se passe quand on a 7, 10 et 12 ans et qu'on doit grimper jusqu'à 3000 mètres d'altitude et pousser sur les pédales dans le sable du désert ? Yannick Billard, le papa, raconte cette épopée familiale dans un livre intitulé « Dans la roue du Petit Prince » aux éditions Transboréal. Et les autres membres de la famille, comment ont-ils vécu cette aventure ? Nous allons le savoir, cet après-midi, la famille Billard, presque au complet, passe par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre sociologue de l'alimentation, Éric Birloez, pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, il nous emmènera sur les routes du sel. Voilà pour le programme du jour. Cette émission a été préparée par Sophie Vaux et Claire Tesser. Elle est réalisée par Marion Lelay et David Leprince. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Bivouac. Daniel Fievé.
3, 2, 1.
Quand on est parti, on avait envie de pleurer, mais en même temps, on était content de partir. Maintenant, on est tout seul.
C'est très émouvant parce qu'on a quitté tous nos proches. Comme disait, c'est mystérieux le pays des larmes.
Moi, j'étais très triste.
Mais t'es quand même content d'être parti?
Bof.
Oh, c'était bien ce soir le vélo.
Ouais, mais j'aurais préféré dormir près d'une maison.
Mais est-ce que tu penses qu'on va réussir à aller jusqu'au bout et à trouver le petit prince?
Trouver le petit prince, ça je sais pas, mais arriver au bout, je pense que oui.
Nous étions à l'été 2019 et c'était le grand départ de Chambéry pour toute la famille Billard qui est quasiment au complet avec nous cet après-midi. Il y a autour de la table Yannick et Marie-Hélène, les parents. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et les deux enfants, deux des trois enfants, Colline qui a aujourd'hui 12 ans. Bonjour Colline.
Bonjour.
Et Simon qui a aujourd'hui 14 ans. Bonjour Simon.
Bonjour.
Amandine n'est pas avec nous, c'est la plus jeune, on la salue, elle nous écoute certainement, hein, Yannick, vous me le confirmez. Alors c'est elle que l'on entendait à l'instant et qui du haut de ses 7 ans semblait moyennement emballée par ce projet de voyage. Hein. L'idée de dormir loin de la maison n'était pas pour la rassurer. Amandine, c'est celle qui avait le plus de crainte au début de ce long périple à vélo de 7000 km, Yannick Billard.
Oui, sans nul doute, elle me charriait régulièrement en disant « Papa, je veux pas le faire ce voyage à vélo, ça va être compliqué ». Mais elle m'a fait le plus beau cadeau du monde à l'arrivée en me disant « Papa, c'était trop cool le voyage à vélo ».
Mais dès le début, elle vous connaît suffisamment pour savoir « Oui, alors le petit prince, on le trouvera peut-être pas, mais le voyage, on va le faire jusqu'au bout et le Sénégal, on va y arriver ». Elle était persuadée.
Oui, je crois que de toute façon, ils étaient vraiment déterminés à aller au bout. Et puis une fois qu'on venait de partir devant tout le monde, devant tous nos amis, il ne fallait pas voiler la face, il fallait vraiment dire « On va aller au bout ».
Ouais. Alors comment est née cette idée de se lancer dans cette grande épopée à vélo en famille de Chambéry jusqu'au Sénégal ?
Alors nous, on est des récidivistes. Marie-Hélène et moi, on avait fait un précédent voyage en 2005-2006 et vraiment un voyage initiatique extraordinaire pour nous deux. Et on s'était juré à la fin de ce voyage de se dire il faudra qu'on refasse ça avec nos enfants. Ouais. Donc, on en rêvait, on avait prévu de faire ça. Et puis, après, les traces du Petit Prince, c'était de se dire que c'est quelque chose d'assez sympathique de voyager derrière un personnage comme celui-là qui va réunir petit et grand autour d'un même voyage.
Oui, parce qu'il y avait ce fil conducteur, partir sur les traces du Petit Prince, avec en tête ces mots avec lesquels Saint-Exupéry termine son livre.
Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.
La voix de Bernard Giraudot lisant la fin du Petit Prince. Vous avez pris cette conclusion comme une invitation au voyage, Yannick Billard.
Oui, je pense que Saint-Exupéry nous invite au voyage à travers cette conclusion. Beaucoup trouvent la fin du Petit Prince triste. Moi, je la trouve en fait très réjouissante. Je trouve que c'est une invitation à aller plus loin, c'est une invitation au rêve, à la poésie. Et c'est vraiment pour ça qu'on a pris nos 5 vélos et qu'on est parti aux traces du Petit Prince.
Marie-Hélène, vous vous souvenez du moment, alors vous avez d'abord pris la décision entre vous, entre parents, de peut-être proposer ce voyage aux enfants. Et puis, le moment où on en parle, toute la famille, on dit aux enfants, et si on partait sur les traces du Petit Prince. Vous vous en souvenez de ce moment précis ?
Oui, oui, en même temps c'est un peu flou parce que je pense qu'ils l'ont senti venir. Ça faisait déjà longtemps qu'on leur racontait nos diverses aventures du premier voyage. Et c'est vrai quand on leur a dit, on va pouvoir le faire parce que professionnellement ça va passer et puis on va aller au Sénégal. Je pense que ça a dû les interpeller un petit peu, leur faire un peu peur, mais bon, ils ont l'habitude de nous faire confiance et de nous suivre un peu en toutes circonstances.
Oui, j'ai l'impression, Colline, tu te souviens, toi, de ce moment-là ? Tu étais plutôt contente, un peu excitée ou un peu terrifiée par cette idée ?
Moi, c'est un peu flou, mais je pense que j'étais très contente. Mais en même temps, c'était un peu l'aventure.
Oui, c'est ça. Hein, cette idée d'aventure, ça vous plaisait. Simon, toi aussi, cette idée d'aventure, t'étais partant ?
C'était... en fait, je pense que du moment qu'on était avec nos parents, on n'avait pas vraiment peur parce que, en fait, c'était un peu, on s'accrochait à eux pour surmonter les difficultés.
Oui, rien ne pouvait vous arriver. Vous saviez que devant vous, il y avait l'Atlas marocain, hein, quand même 3000 mètres à franchir à vélo. Il y avait ce désert de Mauritanie, mais avec vos parents, vous vous sentiez d'attaque. Alors, vous aviez, Yannick et Marie-Hélène, fait vous-même ce grand voyage initiatique. Là, cette fois-ci, vous partiez avec vos trois enfants, dont Amandine, hein, quand même, qui avait 7 ans. Il a fallu choisir le bon moment, et pour vous, c'est ce moment-là, cette fourchette d'âge, 7-12 ans, qui était le meilleur moment pour faire ce voyage.
Ah oui, sans nul doute, on était vraiment dans la période idéale. En fait, les enfants sont autonomes pour pédaler. On n'a pas besoin de les séparer de leur vie d'adolescent, où ils ont vraiment besoin d'un relationnel, d'être entourés par d'autres personnes. Et donc, c'était vraiment le meilleur moment pour nous pour partir.
Ouais. Comment vous vous êtes préparé ? Vous avez fait des grandes aventures à vélo en France avant de partir pour celle-ci ?
Pas tant que ça, finalement, on s'est beaucoup préparé à la rencontre, à expliquer le projet. On a regardé beaucoup de reportages avec les enfants sur les pays qu'on allait traverser. Physiquement parlant, on a juste fait 12 jours de vélo à travers les Alpes. Alors là, c'était vraiment à travers plein de cols, un parcours difficile pour vraiment se tester. Et quand on a fini ce parcours-là, l'été précédent, on s'est dit « c'est bon ». Ouais. Au niveau vélo, ça va passer.
Et puis, vous avez cherché à faire, donc, tout au long du voyage, un parallèle avec les personnages que rencontre le Petit Prince dans le livre de Saint-Exupéry. Alors, lui, il a l'allumeur de réverbère, l'homme d'affaires, le roi qui ne règne sur aucun sujet, mais qui cherche à asseoir son autorité. Vous avez identifié sur votre parcours des personnes qui pourraient, d'une certaine manière, faire écho aux personnages du livre de Saint-Exupéry.
Exactement, il s'agissait de faire écho, mais dans le monde d'aujourd'hui, et quelque chose à portée de nos enfants, que ça leur parle. Donc on était plutôt dans une version positive des personnages, on n'a pas rencontré un buveur ou un monarque absolu,
ouais.
Mais voilà, on a rencontré des reines, par exemple, pour montrer que peut-être que demain, le pouvoir féminin pourrait ouais. prendre le pouvoir sur le pouvoir ouais. masculin.
Donc pas de roi, des reines, mais des reines qui ne règnent pas, comme pas des monarques que vous avez rencontrés.
Exactement, des reines, en fait, venant du Mozambique, qui ont envie de faire le bien dans leur pays et qui avaient envie voilà, de changer la condition des femmes dans leur pays. Donc, les avoir rencontrés à Lisbonne, invités par une association, c'était un très beau moment.
Il y a aussi... Alors, c'est vrai que les enfants, vous aviez votre petit micro et vous alliez régulièrement interviewer les gens que vous rencontriez. Et je crois, Colline, que alors, c'était un peu avant le Portugal, dans les Pyrénées, vous avez rencontré un astronome qui t'a beaucoup plu.
Bah oui, il nous a montré tout... l'observatoire, en nous montrant les télescopes et tout ça, donc on en a appris beaucoup de choses. Et du coup, on s'est vraiment dit que, effectivement, c'est important de faire des rencontres comme celle-ci pour que le voyage soit encore plus marquant et qu'on apprenne plus de choses.
Ouais, vous avez appris plein de choses. Alors en plus, il était passionné comme vous du Petit Prince, cet astronome qui était en fait le responsable de l'observatoire du Pic du Midi. Hein, c'est là que vous l'avez rencontré. Et t'en as profité pour lui demander si l'astéroïde sur la petite planète du Petit Prince, B612, existait vraiment.
Oui, on lui a demandé. Alors, elle existe pas vraiment, mais en fait, c'est des astronomes qui ont donné un nom B612, donc de façon phonétique, pour en hommage au Petit Prince.
C'est ça, elle n'existait pas avant que Saint-Exupéry parle de cet astéroïde, oui. Mais en hommage au Petit Prince, maintenant, il existe un astéroïde qui se nomme B612. Quelles autres rencontres vous avez faites? Par exemple, pour l'allumeur de réverbère. Alors, pour se souvenir un petit peu, dans le Petit Prince, l'allumeur de réverbère, c'est ce monsieur, allumeur de réverbère, qui vit sur sa planète et qui doit éteindre et allumer son réverbère alors que sa planète tourne de plus en plus vite et la consigne ne change pas, ce qui fait qu'il passe son temps à allumer et à éteindre son réverbère, à devenir un peu fou. Là, vous avez choisi quelle rencontre pour illustrer cette rencontre-là?
J'avoue que c'est une que j'ai le plus cherché, celle-là. Et, oui. Et on a finalement fait une très très belle rencontre avec les migrants à Cadix qui passaient le détroit de Gibraltar. Et voilà, on voulait vraiment mettre en avant que... on est en train de faire imploser l'Europe avec cette question des migrations, mais on ne change pas la consigne, on ferme toujours nos frontières, on bloque tout, et voilà, les choses s'accélèrent, il y aura de plus en plus de gens qui vont migrer, tout le monde le sait, avec le réchauffement climatique, ça va s'accélérer, mais la consigne ne change pas.
La consigne n'a pas changé.
Et la lumière de réverbère devient de plus en plus hystérique.
Ouais. C'est parfois un petit peu, j'allais dire tiré par les cheveux, ça fait un petit peu péjoratif, c'est parfois un peu, le fil est ténu, mais ça permet de faire quand même de très jolies rencontres. Pour le buveur, le fameux ivrogne qui boit pour oublier qu'il boit. Vous avez choisi de rencontrer qui, Marie-Hélène?
Eh bien, ceux qui n'ont pas boivent pour oublier, mais cherchent une des réponses à leurs questions existentielles. Et donc, on a pris les chemins de Compostelle et essayé de comprendre ce qui poussait tant de personnes à prendre ce même chemin de réflexion sur les routes de Compostelle, de oui, Saint-Jacques.
Des addicts à la marche, finalement, et qui trouvaient leur équilibre dans ce mouvement de la marche vers Compostelle.
Oui, ou qui ont besoin de faire une pause dans leur vie pour retrouver du sens à tout ce qui les amenait jusque-là et qui va les pousser. C'est plus loin, ouais. Certainement.
C'était votre cas aussi, familialement, cette idée que ce voyage, c'était aussi le moment de retrouver un peu un sens à la vie?
Alors, peut-être retrouver, mais peut-être simplement montrer aux enfants que oui, la vie peut prendre plein de formes, mais pour autant, quel que soit le lieu où on se trouve, trouver plein des amis, trouver des moyens de vivre qui restent joyeux, qui restent ouverts vers les autres. Ouais. Et donc, c'était les inviter plutôt à pas forcément chercher le confort, mais à chercher l'humanité.
Oui, chercher l'humanité, pas toujours le confort. Il y avait effectivement les kilomètres à parcourir à vélo. Vous allez nous raconter comment vous avez vécu ces 6 mois de pédalage intense, le passage dans l'Atlas marocain à 3000 mètres d'altitude, la traversée du désert mauritanien. Yannick et Marie-Hélène Billard et deux de leurs 3 enfants, Simon et Colline, nous emmènent bivouaquer dans la roue du Petit Prince cet après-midi sur France Inter.
J'ai pris un aller simple sans retour. Baby, tu me retiens quand je cours. Fais ce que tu peux si tu vois que je cours. Aussi longtemps que je peux, je retiens mon souffle.
C'était Enchantée Julia qui chantait « Balade » sur France Inter.
La pâtisserie marocaine. Salam alaikum.
Ça regorge dans votre stand.
Goûtez ça, c'est délicieux.
Ah, vas-y. Toujours. Chez nous, toujours l'invité le premier. Viens prendre un morceau avec moi, je te sens plus gourmand que moi.
Oh, je me retrouve avec le plus gros beau.
Très, très goût. Cœur d'oranger, là. Cannelle.
Superbe.
Merci monsieur. Chokran.
Nous voilà arrivés dans un souk marocain. Ça doit raviver quelques souvenirs à la famille Billard qui est avec nous cet après-midi. Marie-Hélène, Yannick et leurs enfants Colline et Simon. Ils nous racontent le long périple à vélo de Chambéry au Sénégal qu'ils ont fait à la recherche du petit prince de Saint-Exupéry. Après les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal et le détroit de Gibraltar, vous avez donc traversé le Maroc. Les souks de Tanger vous ont laissé un souvenir impérissable, Yannick ?
Oui, c'était merveilleux. Les enfants avaient les yeux grands ouverts. Tout était nouveau. Ils découvraient chaque senteur, chaque saveur, voilà, les couleurs. Enfin, c'était merveilleux. Et vraiment, là, plus que jamais, ils se raccrochaient à nous pour découvrir ce monde nouveau qui les entourait.
Et vous avez été particulièrement bien accueillis au Maroc ?
Oui, vraiment. C'était extraordinaire. On a eu tous les soirs. C'était vraiment simple. Les familles avaient envie de nous accueillir, de nous protéger. Les maisons étaient très ouvertes. Et c'était même pas seulement une famille. C'est les maisons d'à côté qui venaient autour d'un plat, des olives, de l'huile d'olive, et on passait un très bon moment.
Mais à ce moment de votre aventure, vous logiez au gré de vos rencontres. En fait, vous n'aviez fait aucune réservation à l'avance.
Dès le premier jour, on n'avait aucune réservation à l'avance. C'est vraiment le plaisir du voyage à vélo. Hein. Qu'est-ce qui va advenir ? C'est l'aventure au premier sens du terme.
Non mais d'accord, mais ça pose aucun problème de se faire inviter chez l'habitant quand on est 5 avec 3 enfants de 7 à 12 ans ?
Alors en Europe, c'est un petit peu particulier, c'est pas toujours évident, il y a toujours la solution du camping. À partir du moment où on a passé Gibraltar, c'était vraiment facile de se faire inviter. Et au contraire, je pense que le fait d'arriver en famille donnait encore plus envie d'ouvrir les portes.
Alors c'est amusant parce que sur la page Facebook du temps d'un bivouac, on a des réflexions d'auditeurs, certaines réflexions très admiratives, fabuleux, magnifique, formidable ce voyage. Et puis d'autres, mais c'est très risqué de faire ça avec des enfants. Ça, vous avez dû l'entendre, ça doit être très représentatif des réactions que vous avez eues, Marie-Hélène.
Oui, on avait parfois les gros yeux ou des gens qui nous disaient c'est courageux, mais qui pensaient vous êtes complètement fou.
Ouais.
Et c'est vrai que parfois les gens nous peut-être pouvaient mal vivre le fait qu'on fasse rater l'école à nos enfants et puis qu'on les emmène dans une aventure effectivement bien peu ordinaire. Mais nous, de notre premier voyage, on savait déjà qu'on ne ferait pas n'importe quoi. On est quand même un peu responsable de ces 3 petits bouts de chou.
Ouais.
Et puis, on savait qu'ils allaient apprendre énormément et grandir beaucoup aussi. Et que c'était leur donner une chance aussi pour la vie.
Une chance. Et puis aussi, il va falloir faire des efforts. Arrive une étape que les enfants appréhendaient un peu. La traversée des montagnes de l'Atlas. On est toujours au Maroc. Alors l'Atlas à vélo, ce n'est pas une partie de plaisir. Avec des passages à 3000 mètres. Comment ça s'est passé, Yannick ?
Ah, ça a vraiment été compliqué parce qu'en fait, oui. C'est pas des routes, c'est des pistes, c'est très sauvage, très peu d'habitations. Plus ça allait, plus on prenait de l'altitude. On manquait vraiment de nourriture. Donc, ça a été voilà, une grande ascension vécue collectivement. Il a fallu chacun se porter les uns les autres pour réussir à aller tout en haut.
Non, mais d'accord, mais il y avait alors, elle n'est pas avec nous, mais il y avait quand même Amandine du haut de ses 7 ans. Elle a gravi avec son petit vélo les 3000 mètres pour arriver au sommet.
Ah oui, sans tricher, du début jusqu'à la fin, presque tout le temps dans ma roue. Alors, elle avait moins de bagages que les autres et voilà, donc moins chargée, plus à l'aise sur le vélo. Ouais. Et elle s'est accrochée. Alors, de temps en temps, elle se mettait à côté de son frère, de temps en temps à côté de sa sœur et puis elle discutait. Elle, c'était sa façon d'affronter l'effort.
Ah oui. Colline, quel souvenir tu gardes de cette traversée de l'Atlas à vélo ?
Que c'était un peu dur, mais c'était aussi fabuleux parce que c'était des paysages différents. Et après, des fois, c'était un peu dur, mais je ne garde pas un mauvais souvenir.
Ouais. Personne n'a craqué, Simon ? Personne n'a craqué dans cette montée de l'Atlas ?
Non, on a assez bien réussi. Je pense qu'en fait, on grimpait ensemble et finalement, on grimpait étape par étape. Étape par étape, on y arrivait assez bien.
Progressivement, et quand vous êtes arrivé tout en haut, alors c'est un peu moins de 3000 mètres, hein, le passage le plus haut par lequel vous êtes passé. Tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là ?
Ben, j'étais content.
Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'on est on était très heureux d'arriver en haut, même si on n'était pas encore au bout.
Ouais. Une grande fierté, parce qu'il y a quelques images qui ont été tournées, hein, un petit film que vous avez réalisé, Yannick Billard. Et on voit qu'effectivement, les enfants, quand ils arrivent tout en haut, ils sont fiers, ils sont heureux, ils ont encore de l'énergie. Et finalement, c'est un peu les parents qui s'écroulent, mais d'émotion devant la fierté de leurs enfants.
Ah oui, nous tous les deux, on est en larmes, on est fiers d'eux, on est ravis d'avoir accompli ça tous ensemble. Je raconte dans le livre que c'est un peu de la transmission, en fait. Ouais. À un moment, on transmet des valeurs, les valeurs de la persévérance, les valeurs du courage. Et je me rappelle très bien qu'arrivé en haut, je leur ai dit, surtout n'oubliez jamais que vous avez réussi à faire ça et que du coup, vous pourrez affronter bien d'autres choses dans votre vie.
Finalement, le seul moment où les enfants ont un peu craqué, enfin, j'ai l'impression, c'est un moment où vous êtes mis un peu en colère. Et en fait, c'est là où on voit à quel point vous étiez leur repère dans cette aventure. Tant que vous teniez le guidon, et en tout cas que vous étiez devant pour montrer le chemin, vous auriez pu les emmener n'importe où.
Ah oui, ils nous auraient suivis sur la Lune s'il fallait.
Ouais.
Effectivement, ce jour-là, je m'étais perdu 3 fois en orientation. Donc à un moment, déçu de moi-même, je m'énerve, je jette mon vélo. Et là, je vois mes 3 enfants qui fondent en larmes. Et donc très très vite, je me ravise en disant « Effectivement, c'est moi qui ai tort, je les ai emmenés. Maintenant, il faut assumer. » Et donc les enfants resuivent derrière. Mais voilà, nous, on n'avait pas trop le droit de craquer.
Ouais, finalement, ils vous ont aussi un peu servi d'aiguillon, vous ont poussé à vous tenir droit, Marie-Hélène.
Oui, effectivement, parce que s'il y a quelqu'un qui a craqué, finalement, c'est moi.
Ouais.
Dans la descente après ce beau sommet, finalement, les épreuves n'étaient pas tout à fait terminées. Il restait des montagnes à gravir, du vent à affronter, le froid aussi. Et à un moment donné, moi, je prends l'arrière et Yannick vient me retrouver. Je lui dis non, là, j'en peux plus, je veux rentrer. Et Yannick dit il me connaît, il me dit on va continuer un peu plus loin, mon courage. Ouais. Et quand je suis passée, quand les enfants s'étaient arrêtés un peu plus loin à m'attendre, ils m'ont fait une grande hola comme ça. Et en me disant allez, maman. Et bien, il n'y avait plus qu'à continuer puisque c'était eux qui me le disaient.
C'est ça. Hein. On sent ce que vous avez vécu, c'est fort, ça resserre les liens dans la famille. Après cette épreuve de l'Atlas, eh bien, vous aviez bien mérité un peu de réconfort dans une vallée qui aurait plu au petit prince, la vallée des roses.
Le rose, c'est un parfum, c'est fort, puissant comme ça, ça donne une énergie et c'est bien pour soigner plusieurs maladies comme ça, pour la peau, pour beaucoup de choses. Oui.
Quand on Ça me rappelle mon enfance, quand on s'asseyait tous ensemble comme ça. On prenait des roses, beaucoup de thé aussi. Et on avait plein de petits gâteaux secs qu'on adorait.
C'est du thé avec les roses. C'est délicieux, voilà. Chez nous, il y a beaucoup de roses. C'est pour ça que les gens utilisent pour tout. Pour le thé, pour le gâteau, pour les cheveux. Ça donne... C'est comme un parfum pour les femmes.
À chaque mariage, nous les femmes, nous nous réunissons pour cette tradition. On mélange le henné à la rose, c'est notre secret.
Ça doit être superbe, Yannick, cette vallée du Dadès au Maroc où l'on cultive les roses.
Oui, parce que ce qui est le plus surprenant, c'est qu'au-delà de la flore même, les montagnes sont roses, rouges, orangées. C'est vraiment la couverture du livre. C'est des couleurs magnifiques. Et c'est vrai que voilà, c'était très émouvant d'arriver à cet endroit-là. Et c'est vrai que dans ce voyage, Marianne vient de le dire, on s'occupe beaucoup de nos enfants. On ne pense pas forcément beaucoup à nous, les parents. Et c'était vraiment l'occasion aussi de prendre un temps pour nous, avec ma femme, ma chère Rose, dans cette vallée merveilleuse.
À laquelle vous écrivez un petit poème dans le livre « Votre Rose ». Qui sait ce qu'aurait pensé le petit prince de ces champs de roses, lui qui était tant attaché à sa rose ?
Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose.
Lorsque vous parliez du Petit Prince, de toutes ces références que l'on a, le Petit Prince et sa rose, le Petit Prince et le renard, les différentes planètes, autour de vous, lors de ce voyage, notamment au Maroc, est-ce que ce livre, ce personnage, était connu des gens que vous rencontriez, Yannick Billard ?
Alors, ça dépend forcément moins une fois passé la Méditerranée, mais quand même, on a trouvé partout des passionnés du Petit Prince, des gens à qui ça parlait. Et puis, même ceux qui ne l'avaient pas lu, on leur a fait découvrir, ouais. Et c'est une histoire assez facile à raconter, qui plaît de suite. Et puis voilà, on peut prendre juste quelques petits passages. C'est le seul livre qu'on avait emmené dans nos sacoches, et on en lisait, en tout cas nous, régulièrement, des passages entre nous.
Et le Petit Prince donc a sa rose, dont il prend grand soin, et puis il rencontre un renard avec qui il devient ami. Vous vous êtes fait des amis, Colline, Simon, lors de ces vacances, ce voyage, cette épopée, cette aventure, c'est loin d'être des vacances, mais comme vous étiez tout le temps en itinérance, est-ce que vous aviez eu le temps de vous faire des amis ?
Alors, on rencontrait beaucoup de personnes le soir, donc ça c'était super sympa. Après, se faire des amis, c'est pas toujours facile, effectivement, quand on reste qu'un soir. Mais en fait, c'était un peu des amis d'un jour et c'était pas grave. Ce qui comptait, c'était de passer une super soirée ensemble.
Ouais. Il y a des moments où tu as eu l'impression de briser la glace rapidement, ou alors progressivement, comme le petit prince le fait avec son renard.
Un soir, on s'est arrêté. On a demandé où est-ce qu'on pouvait mettre la tente. Et puis, il y a un maçon qui nous a invités à dormir chez lui, ouais. Qui nous a donné les clés de sa maison. Et finalement, on a passé toute une soirée, une super soirée, sans parler la même langue. Mais en tout cas, on se comprenait bien par les gestes, par les signes, et c'était super sympa.
Vous avez eu souvent ce sentiment, Yannick, que c'était facile finalement, même quand on ne connaît pas la langue, de s'entendre et que quelque chose passe entre vous et les gens que vous rencontriez ?
Je trouve même que du coup, à travers la gestuelle, l'attention à l'autre qui est exacerbée, on passe vraiment une soirée extraordinaire. On lit quelque chose de très très fort sans qu'il y ait les mots pour le dire. Mais voilà, on sort notre petit carnet de photos, on sort la carte, on montre d'où on vient, qui on est. Et eux font la même chose, vont chercher l'album photo, vont chercher les voisins. Et puis on finit toujours à la fin de la soirée par trouver quelqu'un qui parle anglais ou français dans le village ou un peu ouais. Plus loin. Et là, on peut encore mieux s'expliquer, aller plus loin. Donc c'est vraiment des rencontres qui vont loin. C'est pas le simple rencontre superflue et rapide, c'est une rencontre en profondeur.
Et d'autres belles rencontres sont à venir, le désert n'est plus très loin maintenant. Vous allez nous raconter comment s'est passée votre traversée du désert à vélo dans un instant et nous dire si vous avez fini par le retrouver, ce petit prince. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac et vous êtes bien sur France Inter.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. We'll be right back.
C'est Mon ami la rose de Natacha Atlas.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Qu'est-ce qu'elle raconte ta chanson?
Alors, j'ai égaré mon chameau dans ce désert. Et si vous avez un signe de mon chameau, dites-le à moi. Dans le désert, les chansons sont toujours douces. Tout est fait dans le désert pour ne pas aller vite. Il faut prendre son temps. Quand j'étais en France, je n'ai pas pu supporter le stress, l'angoisse. Je n'ai pas pu supporter la montre. Beaucoup de gens ne le comprennent pas qu'avec ma vie de haut savoyard, revenir ici dans le désert, dormir par terre, et des fois croquer du sable, pour moi, ça fait quand même une grande partie de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai troqué le monde entier contre ça.
La voix d'un homme que nos invités, Yannick et Marie-Hélène Billard et leurs enfants, Colline et Simon, connaissent. Siti Zeidane, il est guide dans le désert, il a vécu en Haute-Savoie, mais vous, vous l'avez rencontré, alors que vous êtes aussi des habitants de Chambéry, mais ce n'est pas en Haute-Savoie que vous l'avez rencontré. C'est sur votre route, ce fameux périple à vélo jusqu'au Sénégal en partant de Chambéry. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit quand il parle de cette douceur du désert qui contraste
contraste avec la vie trépidante en Haute-Savoie, Yannick Billard.
Quelle joie d'entendre la voix de Sidi, il a tout à fait raison. On pensait au départ le désert rude, hostile, et en fait c'est d'une douceur, c'est paisible. Ça permet vraiment à l'esprit de vagabonder, et c'est un pur moment de bonheur.
Mais vraiment, cette traversée, parce que vous avez fait bien 150 km à travers ce désert mauritanien.
Même 300, je crois.
Même 300, oui, parce qu'il y a une ville entre les deux, je crois, enfin au milieu, à mi-chemin.
Oui, il y a, le nom m'échappe, mais c'était une petite ville.
Oui, c'est ça, c'était une petite
mais
ville.
Voilà, mais voilà, de la frontière mauritanienne à Nouakchott, les enfants se plaisaient beaucoup à répéter quand nous étions sur la Nationale 1, mais effectivement, c'est peut-être la seule grande route goudronnée qui traverse le pays comme ça, donc il y avait peu de risques qu'on se trompe. Et donc on était sur une bande goudronnée plus ou moins de bonne qualité suivant les endroits, au beau milieu du sable et des roches de Mauritanie. Oui.
Et puis le vent qui parfois jouait contre vous, et malgré tout ça, vous avez vécu ça comme un moment doux.
Alors, la traversée, je dirais pas doux, c'était quand même, on va dire, un défi. Ouais. Un défi, surtout le premier jour où, effectivement, on avait le vent de face. Et là, c'était vraiment... là, il a fallu puiser dans nos forces, dans nos ressources pour faire face. Et puis, bon, quand on a pris la bifurcation vers le sud, l'armatan nous soufflait un peu plus dans le dos. Donc là, c'était plus sympathique quand même. Même si toujours le sable nous fouettait et nous rentrait partout, dans tous nos vêtements, etc.
Oui, c'est ça, hein, dans tous les vêtements, jusque dans les sous-vêtements. Mais donc, cette route des sables tant redoutée devient quand même, à vous lire Yannick Billard, une parenthèse enchantée dans votre voyage.
Oui, parce qu'imaginez, on l'avait tellement redouté et puis en fait on se retrouve tous les cinq sur la route, presque pas de circulation, au milieu des dunes de sable. Alors c'est toujours ça, c'est un petit peu comme en montagne. Voilà, oui, des côtés difficiles, le vent, le froid qu'on peut avoir en montagne, là c'était la chaleur, le vent, le sable, mais aussi en même temps un accomplissement, quelque chose de vraiment fabuleux. Et puis on l'a en plus en marchant, là on a vraiment été au cœur du désert et là on a approfondi notre douceur du désert.
Ouais, et puis votre quête, hein, vous étiez parti chercher le petit prince, c'était dans le désert que vous aviez le plus de chances de le trouver. Vous avez trouvé votre petit prince, Yannick Billard ?
Oui, j'ai eu la chance de trouver mon petit prince. En fait, c'était en haut d'une grande dune, la dune du Mont Zarga. Et puis là, je ne sais pas, quelque chose s'est passé et la nuit, j'en ai pas dormi. Je me suis réveillé en plein milieu du désert et je suis parti me balader tout seul au clair de lune, sous les étoiles. Et là, ça peut paraître étrange aux gens, mais je me suis revécu étant petit. C'était plus moi qui marchais, c'est comme si moi, petit, je marchais à mes 5-6 ans. Et j'ai pu discuter avec moi-même. Et je ne pensais pas qu'on pouvait se découvrir à ce point-là, qu'on pouvait autant rentrer dans son intimité. Ouais. Et ça a été un moment absolument surprenant pour moi.
C'est l'enfant qui était encore en vous, que vous avez rencontré dans ce désert. Qu'est-ce que vous pensez de ce que raconte votre papa, Colline et Simon ? Colline.
Moi, je me dis que du coup, je ne peux pas trop rencontrer mon petit prince et que j'espère que je le rencontrerai plus tard.
Ouais.
Après, c'est sûr que moi, j'ai quand même un peu le petit prince, c'est-à-dire ce qui me pousse en avant dans la vie.
Ouais. Simon, le petit prince, toi, tu t'attendais à le rencontrer dans le désert ?
Non, pas forcément. Ouais. Mais c'est vrai que le désert, c'était super. C'était un moment super fort parce que, en fait, il y avait plusieurs moments et il y a des fois où vraiment on marchait dans le désert. Et là, on pouvait réfléchir sur soi-même. Et alors, c'est vrai qu'il y avait les paysages magnifiques, mais en fait, c'était des super moments de réflexion.
Oui, c'est ça. Toi aussi, tu as fait un voyage intérieur à t'entendre. Et puis après, ce beau moment dans le désert, eh bien, l'arrivée. Alors là, l'arrivée, c'est en fanfare. Hein. On n'est plus dans le silence du désert. Racontez-nous ça, Marie-Hélène.
Ah oui, c'était vraiment extraordinaire. Donc, sortie du désert, on pensait presque être arrivé. Ouais. Mais c'était là qu'on se trompait. On en avait encore pour 3 semaines à découvrir, à parcourir l'intérieur du Sénégal et ses routes et ses villages de brousse. Donc, l'épreuve n'était pas finie, mais on a eu une récompense merveilleuse à l'arrivée, à quelques kilomètres de notre arrivée définitive. Un village entier, Dimand, donc en Casamance, tout au sud du Sénégal, avait organisé une grande fête, avait arrêté toutes ses activités, voilà, parce qu'il y avait une famille de Français qui allait passer par là à vélo et c'était extraordinaire que depuis la France, on ait réussi à venir jusqu'au Sénégal. Et donc, ils nous ont demandé de nous arrêter à quelques encablures du village et tout le village, je n'exagère pas, tout le village, les enfants des écoles en tête, sont venus à notre rencontre, nous chercher avec toute la musique locale, nous emmener sur la place du village, danser, ça a duré des heures, les discours de tout le monde. Et le soir, c'était pas fini, il y avait encore la fête. On nous a accueillis dans la case des amis du village. Et ouais, vraiment, c'était une fête extraordinaire qu'il est impossible d'imaginer chez nous en France. Donc pour nous, c'était d'autant plus merveilleux.
Ouais, vous vous attendiez pas à un tel accueil. C'est vraiment devenu une fête pour tout le village.
C'est arrivé.
C'est arrivé. Colline et Simon, vous avez déjà entendu la voix de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry ? Simon ?
Non.
Non, eh bien écoute, je te propose de l'écouter. Il lit les premières phrases d'un autre livre qu'il a écrit, un autre livre que Le Petit Prince, un livre qui s'intitule Terre des Hommes. Et il faut tendre l'oreille parce que l'enregistrement date de 1939.
La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes.
Antoine de Saint-Exupéry a utilisé son avion pour se mesurer à l'obstacle. Vous, c'était votre vélo, Yannick ?
Exactement. On a utilisé le vélo pour parcourir le monde et puis le faire parcourir à nos enfants.
Ouais. Et l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. C'est ce que vous sentez avoir vécu pendant ces 6 mois de vélo ?
Oh oui, au petit obstacle qu'on a franchi nous a permis de découvrir une petite parcelle de nous-mêmes. Et à la fin, voilà, c'était vraiment quelque chose de très très fort pour nous d'avoir pu se découvrir à ce point-là.
Ça a resserré les liens dans la famille, Marie-Hélène, ce voyage. Qu'est-ce que ça vous a apporté avec le recul ?
Ah, je crois, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça nous forge comme ça, une force de famille aussi forte. C'est vrai que je trouve qu'on a acquis peut-être une bonne connaissance des uns et des autres, et puis une habitude aussi de se dire les choses, de parler beaucoup. Ouais. Et parce que voilà, quand on est 5 à vélo au milieu d'endroits qu'on ne connaît pas, de gens qui ne connaissent pas notre langue, et il faut bien se dire quand on est en difficulté, il faut savoir aussi se rebondir. Le moral ou se comprendre, s'expliquer. Et je crois que, oui, c'est un peu resté ça quand même.
Colline, qu'est-ce que tu en gardes, toi ? Ça vous arrive régulièrement d'en parler de ce voyage entre vous ou même avec tes amis, peut-être ?
Oui, ça arrive souvent. Et après, moi, ce que j'en garde, c'est que je me dis que la planète est vraiment belle et que donc faut vraiment la préserver et il faut en profiter.
Ouais. Simon, toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 6 mois à pédaler ?
Moi, je pense que la vie est faite de plein de bonheur au quotidien et qu'il faut savoir savoir en profiter de toutes les petites choses qui nous rendent heureux au quotidien.
Bien, en tout cas, ça vous a rendu heureux de pédaler sur ces 7000 km pendant 6 mois. Un grand merci à tous les quatre d'être passés par notre bivouac. Yannick, Marie-Hélène, Colline et Simon. Et puis on embrasse bien sûr Amandine. Yannick Billard, je rappelle le titre de votre livre, Dans la roue du Petit Prince aux éditions Transboréal. Merci à tous les quatre et bon retour à Chambéry. Restez avec nous. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec notre chroniqueur du jeudi, Éric Birloise, qui va nous emmener sur les routes du sel. Fly.
flight. Just shoot for the sun till I can finally run, find a way to fly.
C'était Bluebird, chanté par Lana Del Rey. Et merci à l'ami Djoubaka qui signe la programmation musicale de nos bivouacs.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Et c'est le retour d'Éric Birloëz dans le temps d'un bivouac. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
Vous êtes sociologue de l'alimentation. Comme tous les jeudis en fin d'émission, vous nous emmenez sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin pour arriver sur nos tables. Est-ce qu'on peut vraiment d'ailleurs parler d'un aliment pour le thème que vous avez choisi aujourd'hui ?
Non, c'est plutôt un condiment puisqu'il rehausse la saveur de notre nourriture, mais c'est avant tout un produit vital, donc il s'agit du sel. Alors n'oublions pas que c'est dans l'eau salée des océans que la vie sur Terre est apparue, il y a à peu près 4 milliards d'années. Et n'oublions pas non plus que le sel est indispensable à notre organisme, notre sang, nos larmes, notre sueur sont salées.
Et on sait depuis quand les humains utilisent le sel ?
Probablement depuis les débuts de l'agriculture, qui est apparue pour la première fois il y a 12 000 ans au Proche-Orient. Auparavant, les chasseurs-cueilleurs nomades mangeaient beaucoup de produits animaux, ce qui a priori devait suffire à couvrir leurs besoins physiologiques en chlorure de sodium. Mais quand les Homo sapiens sont devenus agriculteurs, leur ration alimentaire a profondément changé. Ils ont surtout mangé des céréales et des légumes secs, et peut-être que les apports en sel n'ont plus été toujours suffisants. Et puis ils avaient aussi besoin de sel pour conserver leurs aliments. Tiens, par exemple, pour le fromage, qu'ils se sont mis à fabriquer à partir du néolithique avec le lait des chèvres, des brebis et des vaches qu'ils avaient domestiqués.
Et à l'origine, où trouvaient-ils ce sel ?
Alors, il y a 8000 ans, sur un site archéologique de la Roumanie actuelle, on sait qu'un petit groupe humain a capté l'eau d'une source salée. Cette eau était ensuite évaporée sur un feu, ce qui provoquait la cristallisation du sel qu'elle contenait. C'était une technique, semble-t-il, répandue. Et près des côtes, on l'utilisait également pour extraire le sel de l'eau de mer.
Oui, de l'eau de mer, mais nos lointains ancêtres ont aussi extrait le sel de la terre.
Eh oui, alors il y a 3300 ans, dans les Alpes autrichiennes, un peuple celte a creusé des puits verticaux très profonds pour atteindre des couches de sel-gemme. En vendant ce sel aux peuplades voisines, il a accumulé des richesses et il a pu bâtir une société prospère qu'on a nommée la civilisation de Hallstatt. Alors plus près de nous, au Moyen-Âge et en Franche-Comté, sur les communes d'Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains, un sel minier a été exploité de la même façon. Il a donné naissance à des installations architecturales et technologiques extraordinaires que l'UNESCO a inscrites au patrimoine mondial.
Et puis, il y a bien sûr les marais salants.
Ah oui, alors là, c'est l'idée géniale d'utiliser deux énergies 100% gratuites et inépuisables, celle du soleil et celle du vent, pour évaporer l'eau de mer. Mais le procédé est quand même complexe et la création d'un marais salant nécessite des conditions précises. De grands espaces, un sol plat et imperméable, bien sûr, un climat estival, chaud et sec, etc. Alors les premiers à aménager des marais salants ont été les Romains et les Carthaginois sur les côtes de la Méditerranée. En France, les plus anciens marais sont ceux de la presqu'île de Guérande, en Loire-Atlantique. Ils datent du début du Moyen-Âge. On compte aujourd'hui 300 paludiers à Guérande et une centaine de sauniers sur l'île de Noirmoutier.
Donc c'est paludier pour Guérande et saunier pour l'île de Noirmoutier.
Ce sont les termes qu'on utilise.
Ils ne s'appellent pas pareil selon l'endroit où ils travaillent.
Non.
Dès le début, le sel voyageait beaucoup et on pourrait donc parler des routes du sel.
Oui, au Moyen-Âge, le sel des côtes atlantiques était très recherché. Chaque année, imaginez des centaines de navires de pêche qui partaient des ports de la Baltique, de la mer du Nord, de la Manche pour venir acheter en grande quantité ce sel marin dans les marais salants qui étaient exploités entre la Bretagne Sud et le Portugal. Pourquoi ? Parce que pour les marins pêcheurs, l'usage du sel avait été une révolution. Parce qu'ils pouvaient enfin gagner le grand large pour y jeter leur filet. Le sel leur permettait de conserver à bord les harengs ou les morues de Terre-Neuve. Ils n'étaient plus obligés de faire des allers-retours incessants entre les zones de pêche et les ports de débarquement.
Et puis sur un autre plan, le sel a imprégné notre vocabulaire.
Oui, par exemple, les légionnaires de la Rome antique recevaient une rémunération qui était complétée par une poignée de sel. Et un jour, ce sel va être remplacé par une somme d'argent qui portera le nom de salarium.
Ah, ça vient de là.
Salaire. Au Moyen-Âge, les militaires seront payés en sol, ces pièces de monnaie qui vont constituer la solde, qui fera d'eux des soldats. Notre salade, elle aussi, doit son nom au sel. Hein ? Et vous savez qu'une facture d'un montant un peu élevé, on la qualifie de salé.
Eh oui, évidemment.
Et on retrouve aussi d'ailleurs le sel dans les noms de lieux, la toponymie par exemple, Salins, Salis de Béarn, Lons-le-Saunier ou en Autriche, la ville de Salzbourg.
Et puis quand on pense au sel, on pense aussi à la gabelle, Eric.
Eh oui, le caractère vital du sel a suscité chez les puissants la tentation de le taxer. Alors la première fois, c'était en 1246. Le futur Saint-Louis institue, de façon temporaire, un impôt sur le sel afin de financer une croisade. Mais vous savez bien, Daniel, souvent le temporaire devient définitif.
Et oui, malheureusement.
Et cette gabelle du sel, comme on l'appelle, devient permanente en 1341. Et en plus, son montant varie fortement d'une province à l'autre. Ces deux éléments suscitent des révoltes, toujours férocement réprimées, comme par exemple celle des nu-pieds dans le Cotentin, c'était en 1639, ou celle des bonnets rouges en Bretagne en 1675. Bon, c'est la révolution de 1789 qui a aboli la gabelle, mais Napoléon, qui avait besoin de financer ses guerres, l'a rétabli en 1806. Et ce n'est, tenez-vous bien, que le 31 décembre 1945 que cet impôt sur le sel a été à nouveau supprimé.
Merci Éric Birloez pour ces voyages dans l'espace et le temps. Je rappelle que vous avez publié Le Pain, une croustillante histoire aux éditions Quae, et puis également Histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous Éric et à la semaine prochaine.
À jeudi, au revoir Daniel.
Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes, y compris ceux des saisons précédentes, en vous rendant sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr ou en utilisant l'application Radio France. Et merci, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission, sur franceinter.fr et sur nos pages Instagram et Facebook. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.